Des adaptations au cinéma ou en série d'œuvres littéraires de science-fiction, il y en a eu pléthore. On aura une pensée évidente pour Philip K. Dick, auteur possédant le plus de livres portés à l'écran, mais n'oublions pas également les grands classiques, avec H.G. Wells, dont chacune des œuvres ont été multi-adaptées, et évidemment Jules Verne, qui depuis le début de l'histoire du cinéma, illumine les salles obscures de son imagination. Mais dans cette multitude, il y a une œuvre. Classique entre les classiques du Planet Opéra, qui a toujours été considéré comme inadaptable. Dune, de Frank Herbert. Cocasse, puisqu'à votre époque, les premiers livres de la saga ont connu quatre adaptations différentes. Le film de David Lynch en 1984, les films de Denis Villeneuve entre 2021 et 2026, ainsi que deux séries par John Harrison et Greg Yataines en 2000 et 2003. En plus du projet avorté de Jodorowsky, de la série Dune Prophecy et des nombreux jeux vidéo, Dune déchaîne les passions depuis plus de 40 ans. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. En tant qu'humain des années 80 du 20e siècle, j'ai très tôt été bercé par Dune. J'ai dû voir le film de Lynch pour la première fois vers mes 5-6 ans. Un visionnage qui, vous vous en doutez, n'a pas laissé indifférent l'enfant que j'étais. Un mélange de peur, de malaise, notamment à cause de ce mec, hein, mais une fascination certaine et un plaisir non dissimulé. Le sentiment de toucher quelque chose d'indicible, une véritable altérité, une proposition de science-fiction bien différente de ce à quoi les œuvres plus grand public m'avaient habitué. C'est donc un film qui m'a grandement marqué, à tel point que j'avoue n'avoir pas été emballé plus que ça lors de la sortie de Dune partie 1 de Denis Villeneuve. On va y revenir. Je l'ai été beaucoup plus par la deuxième partie par contre. Mais du coup, en attendant le troisième film qui ne devrait plus tarder à votre époque, j'avais envie de revenir sur ces deux interprétations par deux cinéastes majeurs de leurs périodes respectives. J'ai envie d'explorer avec vous les différents aspects de ces deux visions et voir ce qu'il en ressort. Mais avant d'aller plus loin, c'est le retour de Metal Hurlant, notre partenaire le plus évident. D'autant plus que ce mois-ci sort le numéro 19. Un numéro à la thématique fort à propos pour le coup, le désert. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais dans Dune, il y a des déserts. À foison. Incroyable. Metal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionne, Druyer et Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF, comme Alien, Blade Runner et d'autres, n'auraient certainement même pas existé. La saga Mad Max elle-même a failli s'appeler Metal Hurlant, c'est pas rien. Et vous le savez peut-être, mais à la fin de l'année sort un petit film pas trop attendu, le troisième Dune by Denis Villeneuve. Et à cette occasion, Metal Hurlant marque un grand coup en vous proposant une interview du réalisateur. 272 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews autour des étendues sableuses et rocailleuses de mon lointain, mais aussi de notre chère planète. Et du métal hurlant sur le désert sans Alejandro Jodorowsky, ça n'aurait aucun sens. Vous y trouverez donc aussi une interview du maître. Vous pouvez vous le procurer directement en kiosque et librairie, ou bien, et c'est beaucoup mieux, en vous abonnant via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Ils ont aussi ouvert les précommandes pour un numéro hors-série spécial Daft Punk qui célèbre les DJ robots les plus fameux de la galaxie. Des dunes et de la musique, il y a tout pour vous faire plaisir, en plus de soutenir la SF française. Et heureusement, on peut le voir, il n'y a pas que Nexus 6. Et maintenant, on retourne à votre émission. Bon, avant de passer au film, un petit mot tout de même concernant les deux séries produites pour la chaîne Sci-Fi qui adaptent les trois premiers romans. Dune, le Messie de Dune et les Enfants de Dune. Si leurs effets spéciaux sont datés, même pour l'époque, je ne peux que vous encourager à les voir si vous êtes curieux. Déjà parce qu'elles se veulent les adaptations les plus complètes et les plus proches de l'esprit des romans de Frank Herbert, notamment au niveau de sa richesse politique, philosophique et religieuse. Mais ce qui m'a plu également, c'est une forme de radicalité au niveau des costumes, des décors et des designs en général. Alors oui, c'est particulier, voire moche et criard, mais nous sommes des milliers d'années dans le futur. Donc, que les critères esthétiques aient changé à ce point et nous paraissent parfaitement dégueulasses, c'est tout à fait pertinent. Bref, pour votre culture générale, ça mérite le coup d'œil. Je ferme donc la parenthèse. Revenons-en à ce qui nous intéresse, les films. Pour les trois du fond qui ne savent pas de quoi parle Dune, un rapide résumé. Dans un lointain futur où l'humanité voyage dans l'espace grâce à des humains poissons mutants junkies accros à l'épice, une substance issue du vomi de vers de terre géant de la planète Arrakis, aka Dune, nous suivrons le destin de Paul. Sa famille, les Atreides, hérite d'Arrakis et de la gestion de la production d'épices, ce qui génère des jalousies, notamment de la part de leurs pires ennemis, les Harkonnen. Tout ceci était un piège, le mec voit sa famille se faire buter, il s'enfuit dans le désert, est recueilli par les autochtones, les Fremen, et à partir de là, il tombe amoureux, il apprend à faire du surf des sables, il se tape des trips psychédéliques à base de billes de mégalombriques. En gros, à part la partie assassinat, on n'est pas loin d'une année sabbatique de jeune bourgeois à Bali. Progressivement, il passera du statut de jeune noble à celui de messie, puis de méga-empereur dictatorial, ou de sauveur du peuple, ça dépend des films, on y reviendra. Comment comparer des œuvres aussi éloignées l'une de l'autre? Des époques très différentes, tant dans les modes de production que dans la consommation des films, un film qui, en plus d'être héritier d'une tentative avortée, a connu un tournage difficile et de très grosses coupes au montage de la part du studio, à tel point que David Lynch considérera avoir été volé de sa vision. De l'autre côté, deux films dont le réalisateur a bénéficié d'une vraie liberté créative et qui n'ont pas connu de gros problèmes dans leur fabrication, à part un calendrier de sortie remanié à cause du Covid et une polémique sur la sortie en simultané du film sur HBO Max. Et puis un film, deux films, donc pas la même rythmique, pas le même temps pour développer son univers et ses personnages, la comparaison est donc complexe. Néanmoins, dans les deux cas, je considère que l'on est face à des démarches créatives positives, qui méritent le respect, qui sont le fruit d'une volonté artistique certaine, d'un sérieux tant dans la mise en place que dans l'exécution, des réalisateurs et des équipes qui me semblent impliquées. En gros, on ne fait pas ça que pour l'argent. Ou si je devais être plus prudent, on donne bien l'illusion que ça n'est pas le cas. Et vous commencez à me connaître, c'est un point primordial pour moi dans ma manière d'apprécier une œuvre ou pas. Et comme les Dunes de Villeneuve sont le fruit d'une époque où la grande majorité des blockbusters à gros budget donnaient une impression tout autre, on aurait pu penser que ça soit le cas, ou en tout cas, que ça soit plus le cas en comparaison à la démarche qu'avait Lynch en 1984. Je pense que ça n'est pas le cas, et qu'on est face à des démarches d'égale respectabilité, et c'est un terrain commun qui, je trouve, permet donc la comparaison sur des aspects plus globaux. J'ai donc choisi d'en traiter quatre. Le premier, c'est la direction artistique. Et à ce niveau-là, on peut dire que les deux visions sont diamétralement opposées. Chez Lynch, la volonté de proposer une expérience baroque et, disons-le, cauchemardesque, qui tient du théâtre. Des décors foisonnants, le mélange de différents styles, gothique, industriel, surréaliste, une impression de mélange des époques également, comme avec les vaisseaux qui arborent des enluminures qui rappellent des temps plus anciens, le genre de détails qui appuie l'étrangeté de ce monde. Une philosophie que l'on retrouve également dans les costumes, si ceux des Atreides sont un peu plus classiques afin d'accentuer leur droiture morale, tous les autres sont complètement fous. Chez Villeneuve, c'est pas du tout la même. Une forme de réalisme plus immersif et monumental. Une démarche qui, par certains aspects, tient plus du documentaire. Des décors minimalistes qui ont l'air bien plus fonctionnels. Une architecture brutaliste avec des espaces souvent vides, géométriques et massifs qui écrasent des êtres. Une impression plus sérieuse, beaucoup moins de folie. Et donc des costumes et des technologies qui reflètent tout cela avec des textures qui se veulent plus ancrées dans le réel. Même si cela n'empêche pas le style. Pour illustrer l'idée, j'aime bien comparer les deux interprétations des chercheurs tueurs. Chez Lynch, un objet dont la forme donne l'impression que le style importait aussi. Et puis cette vision interne de l'appareil, où on voit une espèce de balancier d'horloge ancienne, c'est une proposition surprenante. Chez Villeneuve, un aspect semi-organique qui n'est pas inintéressant, mais qui reste plus simple tant en termes de design global que de texture et de couleur. Mais la différence de style s'exprime également dans la représentation d'un des éléments centraux de Dune, si ce n'est l'élément central, le désert. Dans le film de 84, des couleurs très prononcées, saturées, de l'orange, du rouge, des fois on tire presque sur le vert. Un espace presque irréel, fantasmagorique, moins un espace géographique qu'un espace mental, ce qui est en adéquation avec l'atmosphère du film. Mais ça, on y reviendra plus tard aussi. Dans les deux derniers films, à part dans la scène d'embuscade, au début de la partie 2, une palette de couleurs plus naturelles, de l'ocre, du gris, une lumière crue, une impression de vide et d'immensité plus prononcée. Ces deux visions sont à mon sens tout aussi pertinentes l'une que l'autre. Ce serait totalement con d'essayer d'affirmer que l'une est mieux ou plus belle. On peut avoir une préférence, mais ça, c'est propre à chacun, et pour le coup, j'avoue que j'apprécie les deux de manière assez égale. Par contre, là où je peux essayer de les départager, se situe à un autre niveau, la prise de risque qu'elles ont constituée lors de leur sortie. Et pour le coup, je trouve l'approche de David plus forte que celle de Denis. Une part du mérite en revient aux travaux préparatoires du Dune de Jodorowsky, vous le savez, mais mettons ça de côté. L'aspect esthétique du premier métrage était déjà considéré comme étrange dans les années 80, il prenait le public à contre-pied, chose que j'apprécie, et si on peut considérer ce style comme parfaitement lynchien, il n'en reste pas moins qu'il tranche avec les anciennes propositions du réalisateur. Similaire dans la philosophie, mais novateur visuellement. Alors que chez Villeneuve, on est, selon moi, pile dans les canons esthétiques de l'époque, avec ce que j'appelle l'iPhonisation des designs. Épuré, froid, sans âme, mais pas de manière négative, juste distancié, tout en étant très classe. C'est beau, y a pas de débat, mais ce n'est pas une proposition qui sort du lot. Ça a été étudié pour plaire, ça nous caresse davantage dans le sens du poil, une méthode que je trouve plus facile, moins ambitieuse en somme, que dans le premier film. Et j'ajouterai qu'en plus, l'univers esthétique de ces deux films m'avait fait l'effet d'un léger recyclage de la part de Villeneuve. notamment avec son travail précédent sur Blade Runner 2049, où franchement, on pourrait interchanger beaucoup d'éléments sans que cela soit choquant. Tenez, on parlait des chasseurs-tueurs plutôt, bah les machins chelous qui suivent le personnage de Wallace, c'est vraiment pas éloigné. Comme si Villeneuve avait trouvé une formule qui fonctionne très bien et qu'il l'a réutilisée. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc sur ce premier aspect, j'ai une légère préférence pour le film de 1984. Le deuxième aspect dont on va parler, c'est la musique. D'un côté, c'est le groupe mythique Toto qui avait été choisi pour signer la bande originale du film avec une participation de Brian Eno. De l'autre, c'est le grand Hans Zimmer qui s'attelle à la tâche. Et malheureusement, pour pas que la vidéo se fasse striker, vous ne pourrez pas profiter des compositions ici. C'est toujours le paradoxe quand on parle musique sur YouTube, souvent, on ne peut pas les mettre. Avant d'avancer sur ce sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas un grand connaisseur de la chose musicale. J'aime la musique, comme tout le monde, hein, mais je ne suis pas capable de l'analyser comme je le ferais pour le cinéma, la littérature ou le jeu vidéo. À part au collège, j'en ai jamais fait. J'ai donc aucune compétence quant à la technique musicale. Mon rapport à la musique est purement sensoriel et émotionnel. Par exemple, je sais que beaucoup de gens critiquent Hans Zimmer sur des aspects créatifs qui me passent complètement au-dessus, parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour juger de la qualité technique de son travail. Voilà, c'est dit. Maintenant, je trouve que, tout comme la direction artistique, à mon niveau, il n'y a pas de débat, les deux bandes originales sont de qualité. Dans les deux cas, des thèmes épiques qui restent. Même si, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je déteste le thème principal du film de 2021. Surtout des compositions qui accompagnent parfaitement l'identité de leurs œuvres respectives. Expérimentales pour les films de 1984, plus consensuelles pour les suivants. Du coup, encore une fois, c'est un petit peu ce que je reprocherais à Dune partie 1 et 2. Lynch, il a été chercher un groupe qui, s'il était connu, et dont les membres étaient aussi reconnus pour leurs compétences en tant que musiciens, n'avait jamais fait de bande originale, encore moins pour une grande fresque de space opéra. Comme ça, là, rien ne les prédestinait à ce genre de projet. Même Brian Eno, qui lui par contre a signé plusieurs BO, il se définit presque comme un non-musicien, avec une approche très expérimentale de son art. Alors que Villeneuve, Hans Zimmer. Voilà, fin de la démarche artistique. Perso, j'aime beaucoup Zimmer, mais il faut reconnaître que c'est le choix de la facilité. On sait que ça fera un truc calibré comme il faut, que ça va plaire à tout le monde, sauf, comme je le disais, à certains esthètes apparemment, mais ce sera efficace. En plus, à nouveau, je trouve qu'il y a un peu de recyclage par rapport à Blade Runner 2049, notamment avec l'utilisation de chants gutturaux mongols. Ça fonctionnait très bien, donc rebelote. On prend pas de risque, quoi. Bon, même si en 84, ils étaient pas cons, prendre Toto, l'un des groupes les plus populaires du moment, c'est fort aussi au niveau de la com et du marketing, je suis pas dupe. Mais il y avait une petite place pour l'incertitude, cette douce imprévisibilité qui peut donner le petit truc en plus en art, et plus de personnalité. En soi, les films sont les purs produits de leur époque. L'un vient d'un monde où il y avait une part de liberté créative moins étudiée, et l'autre d'un monde plus cynique, où les choses étaient bien plus calculées. Pour la musique, en définitive, petit avantage au métrage lynchien. Troisième aspect, l'atmosphère. L'univers de Dune est empreint d'un mysticisme certain. L'épice, outre ses vertus gériatriques et médicales, est un produit qui permet d'étendre la conscience humaine, allant jusqu'à donner des capacités de prescience. C'est ainsi que les navigateurs de la guilde réussissent à trouver les chemins les plus sécurisés entre les étoiles. Et d'une manière plus indirecte, c'est ce qui commencera à éveiller les capacités extra-humaines de Paul. Cet aspect de l'œuvre originelle est extrêmement mis en avant dans le film de David Lynch, à base de visions allégoriques, d'une ambiance générale onirique et surtout de monologues intérieurs qui ajoutent à l'étrangeté du tout.
Il connaîtra vos usages de façon innée.
Oui, peut-être en serait-il capable.
Ces apartés ont souvent été critiqués ou moqués.
He knows about the spice melange.
Mais perso, je les aime beaucoup. Ils sont intimement liés au style inimitable du film.
L'épice de mélange.
En plus, c'est un procédé qui est utilisé pour faire comprendre certains aspects des personnages ou de l'univers qui, on le répète, est foisonnant. Donc ce genre de petit artifice aide le travail d'adaptation.
Le spice melange serait-il moins deep ?
C'est pourquoi à la sortie de Dune partie 1, j'avais été un peu surpris. Le film me paraissait beaucoup moins mystique que son prédécesseur, beaucoup plus terre-à-terre. Et cela avait un peu atténué mon plaisir, car j'avoue que j'attendais à retrouver une spiritualité aussi présente qu'avant. Mais c'est un jugement que j'ai révisé depuis. Déjà parce que la partie 2 a fini par proposer son lot de moments mystiques, mais aussi parce que je me suis rendu compte a posteriori que le premier n'en manquait pas non plus. C'est juste qu'il n'était pas de même nature que dans le film de Lynch. Si l'on compare la scène du test de la boîte par exemple, les deux versions présentent des visions, des capacités qui défient l'entendement ou autres. C'est juste que chez Lynch, l'aspect davantage fantasmagorique apporte un léger plus qui a tendance à donner l'impression que c'est plus mystique par rapport à la froideur villeneuvienne. Mais au final, les intentions ne diffèrent pas tant que ça. Par contre, il y a dans le film de 84 une allégorie sexuelle et une symbolique du dépucelage absolument évidente qui rajoute une couche plus humaine et un niveau de lecture supplémentaire.
J'ai pas peur ! Ça suffit !
Allons, retire ta main.
Chez Villeneuve, c'est pas la même ambiance. En fait, c'est un peu une constante quand on compare les deux visions. Les Fremen sont extrêmement mystérieux dans le premier film, ce qui leur confère une aura particulière. Dans les deux autres, on en apprend beaucoup plus sur leur mode de vie, leur quotidien, leurs coutumes, les individus. Les Vers des Sables sont déifiés chez Lynch, ou tout du moins les héros d'une forme de volonté divine. Chez Villeneuve, même s'il y a une scène qui semble aller en ce sens, ils sont surtout filmés et traités comme des forces de la nature, pleinement intégrés à celle-ci. Les Fremen passent leur temps à en parler comme des divinités, mais le film ne les met pas en scène comme ceux-là. Ça rejoint aussi le fait que Villeneuve met davantage l'accent sur l'aspect écologique de l'œuvre par rapport à Lynch, là où ce dernier est plus intéressé par la prophétie de Paul en tant que tel. En fait, ses choix sont cohérents dans les deux cas, mais dans les films plus récents, le mysticisme de l'œuvre est quand même moins prégnant. Surtout que Davidou, il a fait le choix d'aller même plus loin que ce que Frank Herbert proposait à ce niveau-là. Je pense à l'invention des modules étranges qui n'existent pas dans les livres. Un dispositif qui transforme les mots en armes, une représentation physique du propos du livre. Les grands discours de figures d'autorité peuvent porter en eux le danger de malheurs terribles pour toutes et tous.
Mon nom est un nom qui tue.
Le dormeur doit se réveiller. Parle-moi de ton monde natal.
Mais c'est surtout le rôle des navigateurs de la guilde qui est emblématique de ce renforcement mystique. Bon, déjà chez Villeneuve, c'est simple. Pour le moment, mais ça va changer, ils sont absents. Chez Herbert, les navigateurs se servent de leur préscience pour visualiser tous les possibles lors du déplacement d'un vaisseau entre deux points de l'univers. Ils voient les scénarios où ils arrivent à bon port et tous les autres où ils meurent. Ils arrivent à l'intérieur d'une étoile, aux abords d'une supernova ou d'un trou noir. Bref, il permet de bien utiliser le moteur Holtzmann du vaisseau qui, lui, permet de plier l'espace. Alors que dans Dune 84, ce sont les navigateurs eux-mêmes qui déplacent les vaisseaux à travers l'univers. Une faculté qui font d'eux des êtres extrêmement puissants, qui touchent presque au divin. Une idée plus poétique, donc selon moi, un peu plus belle. Non, désolé, là encore, Lynch va plus loin. Ici, au fond, on touche à la question de l'adaptation. Et que ça soit Lynch ou Villeneuve, tous deux proposent des choses semblables au livre, et d'autres, qui sont différentes. Notamment sur un aspect, le quatrième que je souhaitais explorer avec vous, le propos que tiennent ces œuvres. Avec Dune, Frank Herbert a voulu nous mettre en garde contre les messies, les leaders autoproclamés, ou que l'on nous impose, hein, c'est très résumé, mais c'est l'un des principaux messages de sa saga. Et à ce niveau, là encore, on a deux adaptations très différentes. Villeneuve tient le même propos, et dépeint la montée de Paul en tant que messie davantage comme une descente en enfer. Une ascension qui plus est préparée par le Bene Gesserit, une autre faction de cet univers, pour leurs propres intérêts, en lui donnant des atours de prophétie religieuse. Une action qui pourrait se faire au détriment des Fremen et de leur culture. Ou en tout cas, les mener sur une voie inhumaine. C'est ce que nous montre la fin avec le lancement de la Guerre Sainte, qui va embraser tout l'Empire. Un événement qui n'a pas du tout l'air d'une libération. Lynch, s'il garde certains éléments, notamment le côté religieux, propose un final bien différent, où Paul est intronisé libérateur, avec en bonus une pluie providentielle qui s'abat sur Arrakis, une première depuis des milliers d'années, à la fois baptême et adoubement divin. On est donc sur un final qui tient à propos inverse de celui de Frank Herbert, un changement profond du sens. Chez Villeneuve, lui, les modifications qu'il apporte sont d'une autre nature, notamment et surtout le rôle différent de Shani, particulièrement à la fin, où elle semble ne pas vouloir suivre Paul sur la voie qu'il a choisie. Ce n'est pas anodin, mais ça ne change pas le message principal. Au contraire, ça aurait tendance à appuyer la méfiance que nous sommes censés ressentir vis-à-vis de Paul Muad'Dib Uzul Atreides, First of his name, King of the Andals and the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Non, pardon. Pas du tout, mauvais univers. On s'y perd un peu, monomythe, tout ça. Et c'est tout à l'honneur de Denis, quelques changements par-ci par-là, mais un propos important et salutaire, maintenu. Là où chez Lynch, au final, peut-être moins de modifications, mais un dévoiement de l'œuvre. Donc sur cet aspect, très important, c'est plutôt la philosophie de Villeneuve qui me paraît pertinente. Bon, si on compte les points bêtement, là, comme ça, ça ferait donc 3 points pour Lynch et un seul pour Villeneuve. Voilà, la messe est dite, le film du fou du Montana est bien meilleur que le diptyque du petit génie québécois. Merci, au revoir. Bien sûr que non. Ça ne marche pas comme ça. Déjà parce que cette analyse ne reste que la mienne, avec ce que cela peut comporter de biais, surtout concernant un film de mon enfance, donc je ne peux pas réfuter un réflexe nostalgique, même si je pense m'en être gardé. Ensuite, parce que chacun de ces aspects ne sont pas forcément sur un pied d'égalité, et en plus on ne serait pas toutes et tous d'accord sur l'importance à leur accorder. Enfin, et surtout, entre ces deux propositions artistiques spécifiques, il me semble vain de chercher à savoir laquelle est la meilleure. Ça n'a pas de sens. Dans les deux cas, je trouve que l'on a témoigné un certain respect au public. On a voulu leur proposer des films à la fois divertissants et qui font réfléchir. À chaque fois, on ne l'a pas pris pour plus con qu'il n'est, en expliquant tout. En somme, on ne s'est pas foutu de notre gueule, dans une pure logique mercantile. Chose de plus en plus rare à votre époque. Le tout n'est donc pas de chercher à juger sur la base d'une qualité fantasmée, mais plutôt sur l'intérêt intellectuel, artistique, émotionnel et humain proposé. Et à ce niveau, les deux visions sont égales. Merci pour votre écoute. Citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver or Die est toujours en cours. Mais c'est bientôt la fin. Certaines contreparties sont même limitées maintenant, donc si ça vous intéresse, foncez et merci pour votre soutien. Et mettez le jeu dans votre wishlist Steam. C'est gratuit, ça coûte rien, mais pour nous, c'est hyper important. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne sur The Mandalorian and Grogu, et il y avait des choses à dire. Suivez Nexus 6 et Slexno sur Twitch en masse, abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.